Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Steve Rivière. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Amen. Bonsoir tout le monde. Il est bon de vous voir ce soir, qu'il est bon d'être dans sa présence. Vous savez, il est important chaque jour comme aujourd'hui d'apprendre à louer Dieu comme on le fait. Parce que le premier commandement dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et je crois que une des façons d'aimer Dieu de toute sa force, c'est vraiment de s'épuiser, le louer jusqu'à s'épuiser. Vous avez déjà fait ça ? Est-ce que vous avez déjà essayé de dire « Ok Seigneur, ta parole dit louer Dieu de toute sa force. » Parfois on va s'épuiser en faisant un footing, parfois on est épuisé après une journée de travail, mais t'épuiser parce que tu t'es donné pendant, je ne sais pas, un moment, une heure, deux heures, trois heures, à t'égosiller, à l'adorer en disant « Tu sais quoi Seigneur, je vais perdre ma force dans ta présence. » Mais je vais te donner ma force parce que toi seul es digne que je puisse t'adorer comme ça. Ne levez pas la main, mais si vous n'avez jamais fait ça, je vous encourage d'essayer. Et quand on est ici dans ce lieu ensemble, c'est un bon endroit pour pratiquer. C'est un bon endroit pour dire « Ok, je vais me donner. » Vous savez, des fois qu'on dit « Allez, acclame le roi des rois, loue-le de tout ton cœur. » C'est pas pour vous forcer à faire quelque chose, non. C'est parce qu'il doit être célébré avec toute notre force. Et ça, c'est important. Et je préfère lui donner ma force que donner ma force à n'importe quoi. Oui ou non? Donc, il est bon d'être avec vous ce soir, il est bon d'être dans sa présence. Ce soir, j'ai bien sûr un court message, et avant de commencer, j'aimerais vous transmettre les amours du pasteur Bruno qui sera parmi nous ce dimanche. Donc dimanche, frères et sœurs, je sais qu'on va voir une célébration de feu. Pour ceux qui écoutent l'anglais, je vous conseille d'aller sur le site du pasteur Marc. Vous aurez la conférence donc en audio. C'était le feu avec le pasteur Harold Weiss et pour la fête de la Pentecôte, et ça va être le feu aussi ici. Donc c'est pour ça que ce soir on va faire court, puisqu'on a une excellente semaine avec bien sûr le séminaire avec le pasteur Marc, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, et ça va être extraordinaire. Et mon cœur est réellement priant pour vous ce soir, c'est de nous préparer pour cette semaine. Nous préparer à recevoir et à ne pas passer à côté des choses que Dieu a pour nous cette semaine. Donc vous êtes prêts? On va prier avant de commencer. Saint-Esprit, je me confie en toi, je m'abandonne entre tes mains. Merci Esprit de Dieu pour ta merveilleuse présence. C'est toi qui as été envoyé pour nous convaincre de péché, mais aussi de justice. Alors viens nous convaincre ce soir. Convainc ton peuple que nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Convainc ton peuple par ta puissance, par ta force, par ton onction, par toi-même, que nous sommes justice de Dieu. Viens. Ta parole nous a été donnée aussi, les saintes écritures, pour que nous puissions instruire, reprendre, convaincre, corriger, édifier, et que nous puissions surtout révéler Christ. Alors que Christ soit révélé ce soir. Fais ton œuvre, Esprit de Dieu, au travers de ton serviteur que je suis. Que ce ne soit pas mes pensées, mes paroles, mais tes pensées, ta parole. Que ton peuple ici présent dans ce lieu puisse être convaincu de la majesté de Jésus-Christ. Être convaincu de ô combien en toi nous sommes plus que vainqueurs. D'être convaincu que par la foi en Jésus-Christ nous sommes justifiés. Que le prix payé a été complet, total, et que tout a été accompli. Et que l'héritage, les promesses, les présents, les cadeaux que nous avons en toi dépasse nos petites pensées humaines. Convainc-nous de ta bonté. Convainc-nous de ta majesté ce soir, Saint-Esprit. Ton onction de conviction soit dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, on va tout simplement poursuivre le thème qu'on a vu vendredi soir dernier, c'est-à-dire les porteurs de sa présence. Et ma prière, comme on vient de le faire, c'est que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que nous sommes les portes. On avait vu ça ensemble la semaine dernière. On avait vu que là où Dieu est, là est sa présence. Et si Dieu est en nous, ça signifie que sa présence est en nous. On avait vu que Jacob, dans Genèse 28, a un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et les anges descendent de haut en bas. Il y en a qui descendent parce qu'ils ont envoyé en mission. Il y en a qui remontent parce qu'ils ont terminé leur mission. Et Dieu est en haut de cette échelle. Et quand Jacob se réveille dans Genèse 28, 18, la Bible dit qu'il dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et on a vu donc que dans ce passage, Jacob décrit pour la première fois dans les Écritures la maison de Dieu. Et il dit c'est ici la maison de Dieu, lorsque le ciel est connecté à la terre. Et on a vu ensemble que Jésus dit vous, nous, l'Église dans le Nouveau Testament, êtes le temple. Nous sommes la maison. Donc on a vu que nous sommes les portes qui ouvrons ou fermons la présence de Dieu. On a vu qu'une porte, c'est le passage entre deux environnements. Entre l'intérieur de ta maison, par exemple, et l'extérieur et ton jardin. Donc, pour Dieu, nous maintenant sommes les portes. Parce que Jésus nous a confié le relais. Nous a confié sa mission. Et il a dit, allez dans le monde entier et apportez la bonne nouvelle à toutes les nations. Et faites de toutes les nations des disciples. Donc on continue la mission de Jésus. On a vu ensemble que on transporte sa présence. Et ceux qui transportent Dieu sont destinés aux exploits. Ça, c'est très important. Mais le but, ce n'est pas juste de partager de bons messages, dire « Waouh, je suis ça, c'est super. Un jour, je serai la porte. Un jour, je ferai des exploits. » Non ! La porte, c'est maintenant. Merci Samuel. Les exploits, c'est maintenant. Mais c'est pour ça ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de qui nous sommes en lui, de notre identité. Si toi et moi, on n'a pas la révélation par le Saint-Esprit, s'il ne nous convainc pas de qui on est en lui, alors on va dire, ben c'est bien, je suis la porte, c'est bien. Et puis, la vie passe, les difficultés arrivent et la porte reste fermée. Et on est là, tu sais, ben ouais, pasteur, prie pour moi. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ceux qui transportent Dieu sont destinés aux exploits. On avait lu ça dans Daniel 11, verset 32, qui disait « Il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'Alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Le peuple de ceux qui transporteront leur Dieu, de ceux qui auront une relation intime avec Dieu. Parce qu'on a vu aussi que l'Alliance, ceux qui considèrent l'Alliance, la Bible dit que ceux qui méprisent l'Alliance vont être trompés par la flatterie. Mais ceux qui considèrent l'Alliance, ceux-là feront de grands exploits. Et ça parle de nous, la nouvelle Alliance en Christ. Et on avait vu ensemble que Jésus-Christ a payé le prix fort pour que toi et moi, on puisse porter sa présence. Il a payé le prix fort pour que nous puissions être la porte. Il a payé le prix fort pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Il est mort sur la croix, a versé son sang et il est ressuscité pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et transporter Dieu. Car c'est sa présence qui va nous permettre de faire des exploits. Donc je fais un rappel parce qu'on voit la suite ce matin et c'est tellement, ce soir, et c'est tellement important qu'un plus grand nombre soit convaincu de qui il est en Jésus. Et on a vu que toi et moi, maintenant, par le sang de l'alliance, nous bénéficions d'une alliance nouvelle et éternelle. Il n'y a plus d'autre alliance qui vient. Jésus-Christ a scellé l'alliance avec son sang. Il est ressuscité. Et on a vu que lorsqu'on parle d'alliance, l'image que Jésus a donnée, c'est la communion. C'est de manger le pain, de boire le sang. Et je vous avais dit que l'alliance, la communion, lorsqu'il brise le pain, il dit « c'est mon corps brisé », ça parle de sacrifice, qu'il s'est sacrifié pour que nous puissions bénéficier de cette alliance. Mais on a vu aussi que cela signifie que nous aussi, même si l'alliance nous est offerte gratuitement, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas se sacrifier pour en bénéficier. Parce que la Bible dit « si un seul est mort pour tous, alors cela signifie que tous sont morts pour un seul ». On a vu donc que l'alliance parle de sacrifice et que l'alliance parle aussi d'avoir faim, puisque le symbole, c'est la scène, la sainte scène, qu'on prend en général plus souvent ici à Hosanna dans les groupes de maison. C'est avoir faim de Jésus, avoir faim de sa présence. Et j'avais fait allusion rapidement, mais j'aimerais aussi le rappeler, que le produit de la communion, le produit de l'alliance, la conséquence, si vous préférez, doit être l'intimité. Et on avait vu ensemble que le problème, c'est que Judas, lui, a voulu l'intimité sans alliance. Au moment de la communion, c'est là qu'il est parti. Parce que Judas, c'est comme s'il disait « Seigneur Jésus, je te suis, tant que c'est bon pour moi. Si ça me coûte et que moi aussi, il faut que je me sacrifie, laisse tomber. » Et ça, c'est dangereux. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme ça. L'alliance parle de « je me sacrifie pour toi ». Je vais prendre l'exemple de l'alliance du mariage. Je prends souvent cet exemple, je ne sais pas si je l'ai fait à l'église ou à l'école biblique, mais je vais le refaire ce soir parce que c'est très important. Le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas un contrat. Dans la mentalité de contrat, c'est donnant-donnant. Je m'allie avec toi parce que je fais du business quelque part, c'est un contrat. Je gagne, tu gagnes. Je fais une promotion, mais tu payes le prix. Donc, c'est gagnant-gagnant. L'alliance, être dans une alliance, ce n'est pas avoir une mentalité de contrat. Et je prends souvent l'exemple du mariage en vous disant que souvent on voit les jeunes couples préparer leur mariage et ils préparent la nuit de noces. Il prépare le voyage, il prépare le menu, il prépare le repas, il prépare donc la décoration, il prépare les vêtements et ils investissent beaucoup là-dedans. Et toute la préparation, c'est juste pour la célébration du mariage. Et ils investissent beaucoup d'énergie et de finances pour préparer la fête, mais les mariés investissent souvent très peu leur énergie et leurs finances pour préparer leur cœur à être un sacrifice l'un pour l'autre. C'est pour ça que la force d'un mariage ne réside pas dans la grandeur de la célébration. Beaucoup de grands mariages, malheureusement, se terminent en échec quelque temps après. Parce que l'alliance, ce n'est pas un contrat. Et si les mariés ne se préparent pas et ne s'investissent pas à être formés pour se renouveler dans leur mentalité, pour devenir un sacrifice et comprendre que l'alliance parle d'abord de sacrifice, de communion, pour que le mariage soit fort, alors, comme dit l'apôtre Paul, ils vont connaître bien des tourments. Et le jour et la nuit de noces, c'est la fête. Et après, c'est la guerre. Et c'est ça qui est triste. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas compris l'alliance. La mentalité est erronée. On pense mariage et on investit dans la célébration. Et on n'investit pas dans le prix à payer pour devenir un sacrifice pour l'autre. On ne se renouvelle pas. On n'apprend pas. Et c'est le choc après la vie à deux. C'est le choc de feu dans la paille-corne. Et c'est la tempête. Et là, on se dit, mais tu sais, quand je l'ai épousé, mais personne ne se marie au départ pour divorcer. Il faut être zinzin. Personne ne se marie au départ pour divorcer. C'est la fête, c'est waouh. Mais ils sont vite fait rattraper par la réalité. Hein. Et souvent, ça me fait penser un peu à l'église. On prépare la célébration le dimanche. Le chrétien prépare la célébration le vendredi. On vient là parce que on reçoit et on est content. Et Dieu nous bénit dans sa présence et on fait « Ouais, merci Jésus ». La puissance de Dieu se manifeste et c'est bon. Il y a des prophéties, waouh, qui donnent l'espérance. Il y a des guérisons, waouh. Waouh, un poids fini. Et on est content. Parce que Jésus a fait sa part. Il s'est sacrifié pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Il s'est sacrifié pour que, en son nom, les démons fuient. Et le chrétien se prépare pour la célébration du dimanche, la célébration du vendredi, et oublie la vie de sacrifice dans la semaine. Il oublie que l'alliance de Christ ne veut pas qu'on vienne juste le célébrer le dimanche ou le vendredi. Mais l'alliance veut faire de nous des disciples de Jésus-Christ. C'est plus qu'être un chrétien de l'église Hosanna. C'est plus qu'être un membre de telle ou de telle église. C'est plus que faire partie de tel ou de tel mouvement. C'est comprendre l'alliance que Christ a fait pour nous. Afin que le mariage soit fort. Et que de cette communion et de ce sacrifice commun, quelle production il y ait ? L'intimité. Parce que pour Dieu, l'intimité est réservée dans le cadre de l'alliance. Pareil pour le mariage. Et quel est le produit de l'intimité ? Un enfant. Dieu veut qu'on soit intime avec lui, afin qu'on enfante le surnaturel. Dieu veut qu'on fasse un avec lui afin que sa force soit notre force. Afin que son amour soit notre amour. Que sa paix soit notre paix. Que sa joie soit notre joie. Le bénéfice de l'alliance. Mais pour ça, nous devons comprendre qu'il a garanti de nous permettre de bénéficier de sa présence. Par son sacrifice, il a scellé l'alliance. C'est maintenant accessible. C'est maintenant disponible pour tous ceux et celles qui ont compris cela. Pour tous ceux et celles qui se disent, wow, maintenant que le sang de l'agneau a coulé pour moi, que le sacrifice parfait a été immolé pour moi, je peux recevoir sa présence. Je suis une porte. Je transporte Dieu. Et maintenant, lui, il a donné sa vie pour moi, je veux donner ma vie pour lui. Pour que moi aussi, je puisse, dans la communion avec lui, l'intimité, dans la prière, produire un enfant dans cette relation avec son esprit. Cet enfant issu de l'union entre le surnaturel et le naturel, entre le domaine spirituel et le domaine naturel. Qui nous permet de marcher dans le surnaturel. Parce que je vous ai déjà dit, pour Dieu, il n'y a pas deux dimensions, le naturel et le surnaturel. Pour Dieu, le surnaturel est naturel. Amen. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que ceux qui transportent leur Dieu vont faire des exploits. C'est pour ça que Dieu nous a donné la foi. S'il ne voulait pas qu'on n'ait pas accès au monde spirituel, au surnaturel, il ne nous aurait pas donné la foi. Mais s'il nous a donné la foi, c'est pour faire quelque chose de grand pour son nom. C'est ce que Dieu veut pour nous. L'intimité dans l'alliance. Et mon cœur réellement, le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. C'est reste pas juste dans ce lieu en disant c'est un bon message, je suis une porte. Et tu n'ouvres pas la porte dans la semaine. C'est bon, je transporte Dieu, il est l'Emmanuel, Dieu avec moi et en moi. Et l'ennemi t'attaque dans la semaine et tu gagnes le coup. Tu fais why, pouac, pouac. La vie est dure, la vie est dure, c'est tout le temps dur. Oui, il y a des moments durs, mais c'est tout le temps le dur. Et là, c'est tout un Dieu, tu dis à ta famille, Dieu est bon. Ça fait 20 ans que je suis converti. Dieu est amour. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il peut avoir des moments de tempête, c'est sûr. Des saisons pas faciles où on a besoin de s'ouvrir, de s'entraider, de pousser dans la prière, d'être aidé, d'être épaulé. Oui, tout le monde a besoin de ça. Mais si c'est ça, toute la vie en Christ, c'est un souci. L'apôtre Paul dit dans Actes, pourvu que je cours ma course avec joie. Et c'est un verset qui m'a frappé dans la semaine. Je me dis, waouh, moi je veux courir ma course avec joie. Pour que la paix de Dieu émane de moi, parce que je suis une porte comme toi. Et être un avec lui. Pour que sa force soit ma force. La Bible dit que Dieu s'est fait faible pour que nous soyons forts. Parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu pour nous ne nous donne même pas sa force. Il nous donne sa faiblesse, si tant est qu'il y ait une faiblesse en Dieu. Et avec sa faiblesse, on est plus fort. C'est juste pour méditer. Sa présence en nous. Sa présence autour de nous, sa présence sur nous, sa présence au travers de nous, c'est ça qui va nous permettre de faire des exploits. Et ce soir, tout ça c'est un rappel. Ce soir, j'aimerais juste essayer avec vous de répondre à une question en lien avec le thème, bien sûr. C'est comment libérer plus sa présence pour faire plus d'exploits. Ça vous dit de connaître ça? Qui a envie de faire plus d'exploits dans sa vie en Christ? Ben, vous êtes bienvenus dans ce lieu. Donc regarde ton voisin et dis-lui, ouvre bien tes oreilles spirituelles. Je vais vous relire ce passage dans Actes, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On avait terminé sur ce passage la fois dernière. Je vous disais que ici les apôtres étaient frappés, persécutés pour le nom de Jésus. Et on voit que dans la tempête, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, il ne demande pas dans ce verset, « Oh Jésus, arrête les problèmes. Oh Jésus, arrête leurs menaces. Oh Jésus, donne-nous la faveur de nos ennemis afin qu'ils arrêtent de nous gronder, nous crier dessus. » Ils ne disent pas, « Seigneur Jésus, ils ne m'aiment pas. Seigneur Jésus, ils ne nous aiment pas. On est gentils avec eux. Nous, on est les gentils et eux, ce sont les méchants. » Ils ne disent pas ça. Ils disent, la prière, c'est plus de toi, plus de ta présence, plus de toi Jésus. Les apôtres disent, vois leurs menaces, vois leurs menaces et étends ta main. Qu'il se produisent des signes, des miracles et des prodiges. Et ça, c'est une prière à faire. Donc la première façon de libérer plus sa présence, c'est par la prière. Tout simplement. Mais une prière où tu supplies Dieu, où tu as soif de communion avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je reste dans la nuit de prière. C'est pas pour faire figure. C'est pour toucher ta présence. C'est pour plus de toi. Et tends ta main dans ma vie. Tu vois le fracas de ma vie en ce moment. Et tends ta main Et comment Dieu a répondu ici dans ce passage? Dieu a répondu en les remplissant du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Et je vous disais, prier en langue ne signifie pas être rempli du Saint-Esprit. Prier en langue, c'est bien. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu habite en toi. Une des preuves. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous montre toujours que le remplissage du Saint-Esprit se manifeste par l'assurance. Dans leurs menaces, dans leurs soucis, dans leurs déboires, ils ont l'assurance et la foi en Dieu inébranlable. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu qui est là. Remplis de l'Esprit de Dieu, ils sont un avec Dieu. La force de Dieu est leur force. Ils produisent le surnaturel dans cette intimité qu'ils ont dans la prière avec le roi des rois. Et ça, c'est extraordinaire. L'assurance qui bannit toute crainte, qui bannit toute inquiétude, qui bannit toute peur. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour qui bannit la peur. C'est l'amour qui bannit la crainte. La conséquence de l'intimité, c'est une plus grande dose d'amour pour les autres. Et cet amour-là se voit par l'assurance que tu prends. Ta situation ne change pas forcément, les menaces sont toujours là, la persécution est toujours là, mais il n'y a plus de peur, plus de crainte, plus d'inquiétude. La victoire a été obtenue là. La paix de Dieu est là. Et c'est pas par tes efforts ou c'est pas par mes efforts, c'est pas par ta capacité, c'est pas par ma capacité. C'est par sa capacité. C'est par son esprit. C'est ni par la force, nous dit la parole de Dieu, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit que toute montagne sera aplanie, nous dit le Seigneur. Donc premier point, on libère plus de puissance, on fait des exploits par la prière. Deuxième point très simple, par la foi. J'aimerais utiliser un passage pour terminer ces dizaines de minutes qui nous restent ensemble. Sur ce passage-là crucial. Luc 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis qu'il m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est de la dynamite, ce passage. Comment peut-on libérer la présence de Dieu? Comment peut-on, dans la présence de Dieu, aspirer sa puissance? Tout le monde dit par la foi. Voici une femme qui touche. Personne lui avait dit cette méthode. Ça ne s'était pas encore fait. La foule presse Jésus. Et elle se dit en elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et tout le monde touche Jésus. Et là, Jésus sent une force, la présence qui est sur lui. Pouf, part. Ça, c'est bon. Dans le corps de cette femme. Et souvent dans les évangiles, nous voyons beaucoup de personnes obtenir une percée avec la foi comme ça. On a l'aveugle Bartimée qui crie et les disciples disent tais-toi, mais ils s'en fichent. Il dit j'irai jusqu'au bout. La foi qui manifeste une assurance et une audace peu commune. Mais comprenons bien ce qui se passe dans le passage de cette femme-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? En regardant à d'autres cas similaires dans les évangiles. Jésus, qui est venu révéler le Père, il est l'image parfaite du Père, nous dit la parole de Dieu. Il est venu pour faire les œuvres du Père. Il est venu pour faire sa volonté. Il est venu pour amener le règne de Dieu. Oui ou non? Jésus, on a vu dimanche, amène la révélation de Dieu en tant que Père. Extraordinaire. Et Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est l'expression parfaite du Père. Waouh! Et il dit dans Jean 5, verset 19, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, Jésus ne fait que ce que le Père lui montre. Oui ou non? Je pense et je crois réellement que le matin, très tôt, nous dit la parole de Dieu, Jésus allait prier très tôt le matin, on restait une nuit de prière, comme on va faire ce soir. Et je pense que c'est là qu'il devait recevoir les directives de son Père. Les grandes directives. Dans la communion, le Père le communiquait. La prière le matin, le programme de la journée. Il devait savoir et il devait voir ce que le Père faisait. Et il devait savoir où aller pour changer de village, pour aller d'un village à l'autre. Et dans son intimité, dans sa relation avec le Père, ses moments intimes, lorsqu'il priait tôt le matin ou se retirait souvent tout seul, il devait recevoir les directives et ensuite il disait aux disciples, on va dans telle ville, on va dans tel endroit, on va faire ci, on va faire ça. Mais j'aimerais vous ramener dans Luc 8. Jésus marche. La foule le presse. Il n'a même pas vu sur le coup que la femme l'a touché. Pourtant, il ne fait uniquement ce qu'il voit le Père lui montrer. Le Père lui a-t-il montré qu'une femme allait lui toucher? C'est une bonne question d'examen, ça. Il marche. Qui dit que le Père lui a montré? Qui dit que le Père ne lui avait pas montré? Qui se mouille pas du tout? Vous savez, même si Jésus recevait ses directives du Père, Jésus appelait le Christ, c'est-à-dire le Oint. Et le jour de son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Et donc Jésus recevait aussi ses directives du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit était sur lui, la présence, donc le Saint-Esprit lui révélait parfois sur le coup ce qu'il devait faire lorsque le Père ne lui avait pas prévenu à l'avance. Très important de comprendre ce principe-là. Et aujourd'hui, qui a la présence du Saint-Esprit? Il n'y a pas de piège. Qui a la présence du Saint-Esprit? Tu devrais dire moi, j'ai la présence. Moi. Ce qui signifie que l'Esprit de Dieu est sur nous parce qu'il nous a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés. Donc ici, Jésus marche, il y a la foule qui le presse, il ne sait pas que cette femme va le toucher. Cette femme le touche et il sent la présence est aspirée. Moi, je fais le bruitage. Et là, il se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Et Pierre, qui est super sympa, j'aime bien Pierre, me fait penser souvent à nous. Il dit, Seigneur, tout ça de gens qui te touchent là, tu demandes qui t'a touché? Voulant dire n'importe quoi. Mais il n'a pas dit ça comme ça, il dit, Maître, tous ces gens qui te pressent. Mets un peu plus de forme. Et Jésus répond en disant, mais si quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Et mon cœur, pour chacun d'entre nous ce soir, c'est de nous faire réaliser que dans la présence de Dieu, on peut faire sortir une force de lui pour nous toucher, nous. Ça, c'est très important. Et donc, Jésus, bien sûr, était à l'écoute aussi du Saint-Esprit, comme il était à l'écoute du Père. Et le Saint-Esprit lui révélait parfois, sur le coup, qu'est-ce qui s'est passé. Comment faisait-il lorsqu'il n'avait pas de directive précise pour savoir, sur le moment, ce que le Père voulait faire. Comment il savait que ce que le Père voulait faire lorsqu'il n'avait pas été prévenu à l'avance dans sa relation avec le Saint-Esprit. Un des indices, c'est qu'il regardait à la foi chez les autres. Oh. Il regardait qui avait la foi. Parce que la foi attire sa présence. Il regardait donc la foi dans les autres. Et avant d'agir, il attendait de voir qu'est-ce qui se passait parfois. C'est comme si, en fonction de notre réponse, ou la réponse d'une personne, Jésus savait quelle direction il allait prendre. Parce qu'il attendait de voir où il y avait de la foi, où il n'y en avait pas. La foi dans les autres, la foi en nous, le fait réagir. La foi en nous fait réagir à sa présence. Et ici, imaginez une foule qui marche. Personne à ce moment-là reçoit un miracle. Et à mon avis, il y avait plein de malades dans la foule. Une seule dame reçoit un miracle. Cette dame touche par la foi le bord de son vêtement. Et boum, la force sort de Jésus, la force arrive dans son corps et elle est tout de suite guérie. C'est extraordinaire. Et dans les évangiles, on voit ça constamment. Pourquoi ? Parce que la foi crée une demande sur l'onction. La foi crée une demande sur la présence. La foi, quelque part, oblige la présence à devenir manifeste. C'est bon, ça. Donc la foi est capable de libérer la puissance de la présence. Un autre exemple, Matthieu 15, verset 22. Un exemple que j'aime bien, combien puissant. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit : Toi, les disciples, t'es rempli de compassion. Et il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et ça, c'est un zoc, ça. Jésus n'était pas conduit par les émotions. Jésus n'est pas conduit par nos besoins. Qui a besoin de quelque chose ici ? Levez bien haut la main. Qui a besoin de quelque chose dans sa vie qui demande à Dieu ? Amen. Dieu est un bon Père. Il est capable de pourvoir nos besoins. Il veut pourvoir nos besoins. Mais il y a certains besoins, parfois, qu'il faut qu'on demande. Et Dieu n'est pas conduit par notre... Mais fais pitié. C'est pas parce que je m'apitoie sur moi que je vais faire réagir Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu avec nos émotions. Les enfants parfois manipulent les parents avec des émotions. Papa, s'il te plaît. Mais avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Il ne réagit pas à « je fais pitié ». Ce n'est pas notre faiblesse. Il réagit par rapport à sa bonté. C'est parce qu'il est bon. Et il réagit surtout par la foi. Et là, il dit une phrase choquante à cette femme. Mais c'était un test. Parce qu'il voulait voir s'il y avait de la foi. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est quoi ? C'est ce que le Père lui a dit. Là, il fait la volonté du Père. Mission : les brebis perdues d'Israël. Pas les étrangers. Ok, mission du Père. C'est ce que le Père lui a dit, grande directive, mais le Saint-Esprit est sur lui. Il sait que sa présence est constamment là. Et là, il cherche. Il cherche comment il va libérer cette présence, comment il va opérer. Cette femme vient, les disciples remplis de compassion, on dit, bon, je suis à elle. Ils n'ont pas dit en créole, mais ils disent, renvoie-la. Et Jésus l'atteste et lui dit, j'étais envoyé que brebis, perdue de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la femme insiste et elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Yes, what can I do, doudou? Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. C'est bon ça. Voici le Père dit, tu vas aux brebis, dispersé d'Israël. Mais Jésus a la présence sur lui. Il a la présence sur lui. Et il sait que la foi crée une demande sur la présence, sur l'onction. Il sait que si cette femme a la foi, elle va obtenir ce qu'elle a demandé. Donc il met un test fabuleux, piégeux, où celui qui est orgueilleux dira, ben n'importe quoi, je ne veux pas guérir moi, laisse tomber, pasteur. C'est un pasteur, ça. On a lui pris pour moi, il dit, donne manger, petit chien. T'es, franchement, qui prend moi, lui, là? Jésus teste. Parce que Jésus ne veut pas réagir aux besoins. Il réagit à la foi. Et il voit que cette femme a une grande confiance en lui et en sa bonté. Elle savait qu'il était bon. Et elle dit, je vais aller puiser dans ta bonté parce que je sais que tu es bon. Et ce que tu me dis là, c'est pas toi. Et elle dit, mais les petits chiens peuvent avoir des petites miettes. Et Jésus est choqué. Il fait, waouh! Oh femme, ta foi est grande. Qu'il soit fait comme tu veux, problème réglé, hop. Et mon cœur, le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous ici, c'est que Dieu est souvent présent dans les célébrations. Nous allons avoir une semaine avec le pasteur Marc où sa présence va être réellement manifeste. En ce moment où je vous parle, Dieu est présent. Mais combien sont comme cette foule qui presse Jésus, mais qui ne reçoit pas leur miracle, ils le suivent, mais ils n'ont pas cette foi qui demande, et qui commande, et qui insiste pour que l'onction soit libérée. Le pasteur Marc va arriver, et le manteau de Dieu sur cet homme. Souvent, la libération de la puissance ou de la présence est en fonction de notre réaction. En fonction de la demande qui va impliquer une commande. Lorsqu'il y a très peu de demandes à cause de l'incrédulité, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth à cause de ça. Mais lorsqu'il y a une demande pressante qui croit en sa bonté, et qui sait que dans sa présence, tout peut se manifester. Dans sa présence, tu peux avoir la réponse à ton problème. Tu peux avoir la réponse à tes difficultés. Alors ceux et celles qui ont eu des oreilles pour entendre ce soir, vous encourage à venir avec un cœur prêt à faire une demande sur l'onction qui va se manifester dans la semaine. Au travers du pasteur Marc. Et de dire, Seigneur, je crois. Demande. Jésus agissait lorsqu'il reconnaissait la foi chez les autres. Il était tellement, bien sûr, un homme de foi, le consommateur de la foi, qu'il savait très rapidement reconnaître qui avait la foi. C'est comme quand tu pries pour les gens, tu les conseilles ou que tu prophétises. Tu sais qui reçoit avec foi, tu sais qui ne reçoit pas avec foi. Quand tu donnes un conseil, tu sais que la personne, tu passes une heure, deux heures avec. n'a pas reçu avec foi. Tu dis aïe, aïe, aïe. Rebelote pour une saison de calotte. Pour elle-même. C'est triste. C'est triste. Parce que ce n'est pas le pasteur qui est capable de faire quoi que ce soit. Nous sommes les serviteurs de Dieu, mais des transporteurs de sa présence. C'est lui qui fait la différence. Nous sommes les porteurs de sa présence. L'Église dans son ensemble, nous sommes les portes qui sont capables d'ouvrir ou de fermer sa présence. C'est pour ça qu'il nous faut chercher la foi. Être à l'écoute du Saint-Esprit lorsque sa présence est manifeste. Et de faire une demande sur la présence. Vous savez, la présence, ce n'est pas une atmosphère. Ce n'est pas un nuage invisible. La présence, c'est une personne. L'Esprit de Christ au milieu de nous. La présence, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance une certaine ou une force. C'est une personne, le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus veut que nous puissions comprendre. Sa présence apporte la paix. Sa présence apporte la joie. Sa présence fortifie. Sa présence édifie. Fais une demande sur cette présence. Aie la foi quand tu viens en célébration. Viens pas à cause de la routine. Viens pas à cause de la tradition. Viens pas parce que depuis je ne sais pas combien d'années tu es chrétien. Viens parce que tu sais que sa présence est là. Et que tu sais que si sa présence est là, tu es capable de faire une demande par la foi. Pour que ta situation change. Parce que la présence est une personne. L'Esprit de Christ. Vous savez, je terminerai là-dessus. Lorsque Dieu est présent, sa paix est présente. Lorsque Dieu est présent, son amour est présent. Vous pouvez recevoir des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais ils ressentent dans l'atmosphère l'amour de Dieu ou le changement. Ils ne savent pas trop quoi, qui, comment, quoi. Mais si toi tu es enfant de Dieu, tu sais que c'est parce que Dieu est là. Le monde croit que la paix, c'est l'absence de guerre. Le monde croit que la paix, c'est l'absence de bruit. Le monde croit que la paix, c'est l'absence de conflit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons croire que la paix, c'est la présence d'une personne. Au milieu des conflits, au milieu de la guerre, au milieu du bruit, Jésus est vivant. Il est présent en chacun d'entre nous et au milieu de nous. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es la porte. Ouvre-la. Acclamons le roi des rois, frères et sœurs. Toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Est-ce que ce message vous a béni, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez que Dieu vous aime? Imaginez la communion avec lui nous rend fort. Lorsque je sais que je manque d'assurance dans une situation, c'est que je sais que c'est parce que je manque de sa présence. Et lorsqu'il me remplit, c'est bon. Je ne vais pas être trop long, comme je vous disais. Il n'est pas encore 8 heures, mais on va faire les offrandes et terminer sur les annonces pour avoir une petite heure de pause et revenir à la prière pour ceux qui peuvent. Mais je vous en supplie, croyez en l'amour de Dieu pour vous. croyez que vous le transportez et que vous êtes destiné à faire les exploits par la foi.